Ce retour à la nature qui a été signalé dans la façade du Palazzo Rezzonico, dans le dernier état de son architecture, se retrouve aussi d'une façon très piquante dans les meubles du grand ébéniste vénitien Brustolone qui orne les salles de ce palais. Ce n'est pas une nature réaliste, naturellement. C'est une nature fantastique, une nature bizarrement associée à l'homme, qui fait que l'on voit, par exemple, les personnages de Brustolone en accoudoirs, de fauteuils ou en statues qui se confondent presque avec les arbres dont ils ont l'air de sortir et auxquels ils retournent. Mais ce qu'il y a de plus magnifique dans cette salle des fêtes du Palazzo Rezzonico, c'est l'ensemble des fresques de Crozzato qui ont associé à un plafond représentant la gloire de Phaéton, des architectures illusoires, des trompe-l'œil extrêmement habiles qui donnent l'impression de fuites à l'infini au-delà des balcons et au-delà des coupoles. Ce Crozzato était d'ailleurs un élève de Jean-Baptiste Tiepolo et nous retrouverons le génie de ces grands fresquistes, de ces grands décorateurs vénitiens du XVIIIe siècle chez Jean-Baptiste Tiepolo lui-même dans la salle voisine où est célébré le mariage de Faustine à Savorniane et d'Henri Zonico. C'est ici un des plus beaux plafonds de Tiepolo parce qu'il est merveilleusement aérien. On voit dans ce ciel se réunir les divinités de la mythologie. Et avec cette liberté de traitement, avec cette joie de créer, avec cette invention perpétuellement renouvelée qui intègre aussi des figures familières, nous reconnaissons bien Christina qui était le modèle favori de Giambattista Tiepolo. Mais en passant dans cette salle, n'oublions pas tout de même ce petit escalier. Ce petit escalier descend à l'appartement de l'entresol, l'appartement que l'on appelle le mezzanino, qui a été habité par le poète anglais Robert Browning. C'est là qu'il s'est installé, qu'il a meublé. À cette époque-là, le palais était complètement démeublé. Et c'est là qu'il s'est installé et qu'il est mort en 1889. Si nous voulons continuer justement cette promenade à travers le XVIIIe siècle vénitien, nous pourrons la faire d'une façon d'autant plus heureuse et plus complète ici que le palais a été complètement remeublé par des achats dans des collections privées, par des dons, et que chaque salle est revenue exactement dans l'état où elle se trouvait à l'époque où l'habitaient les patriciens vénitiens qui en ont fait la beauté. Et ce que je voudrais noter tout de même au passage, c'est que le génie de Giambattista Tiepolo ne s'est pas dépensé seulement dans les plafonds, mais que nous le retrouvons même dans les fresques illusionnistes des bases des murs, où là aussi nous voyons toutes sortes de personnages fantastiques joués avec des rubans et avec des coquillages tellement étranges que certainement même les mers du Sud n'en ont jamais connu de pareils.
Mais, cher ami, n'oubliez pas au passage Rosalba Carriera, que vous traitez avec négligence. Il y a là tout un ensemble dans une salle de pastel de cette ravissante artiste qui, ne l'oublions pas, fut connue de Watteau lorsqu'elle vint à Paris et qui se trouve ainsi mêlée aux destinées de notre art du XVIIIe siècle qui s'ouvrait.
Rosalba Carriera a été certainement un portraitiste charmant, un bon interprète de la société de son temps, mais le fait qu'elle s'est limitée, ou à peu près, je crois, à peindre des visages, fait qu'en aucune façon, elle ne peut être comparée à Pietro Longhi, qui est, lui, l'admirable interprète de la vie vénitienne dans ses détails les plus familiers. C'est lui qui a représenté dans des petits tableaux charmants la visite chez le pharmacien, les achats chez le marchand de fruits et de légumes, la visite chez le dentiste et aussi les compliments faits à l'accouchée et la toilette d'une dame du monde auprès de laquelle se trouve son confesseur naturellement, sa soubrette, l'une s'occupant de son corps, l'autre s'occupant de son âme, et apparaît par dans l'embrasure de la porte un magnifique éduc, un coureur vêtu à la façon des hussards hongrois qui apporte dans le pommeau de sa canne un signe de sa fonction de coureur, le billet doux que le galant envoyait à la dame.
Peut-être un des plus curieux est-il à la National Gallery de Washington. On voit sur un canapé une jeune dame qui s'évanouit, cependant que son père, vêtu de noir et haut personnage de République vénitienne, l'injurie presque de fureur. Et sur le canapé, un tricorne oublié par un galant nous explique la colère du papa.
Sur de familiaux plaisirs, tenant close leurs portes peintes, les murs, des corniches aux plaintes, sont couverts de stuc ou de cuir. Du père, assis, le ventre bombe dans un gilet de brocart blanc. La mère suit, l'œil tendre et franc, son dernier nez qui tangue et tombe. La fille essaie au clavecin de jouer par cœur sa sonate. La chatte, au premier plan, se gratte. La bru porte une mouche au sein, auquel s'intéresse en tricorne le masque au front, la mante au dos, le fils cadet, jeune et dispo, que suit un maigre valet morne. C'est un intérieur uni, sans fièvre, sans inquiétude, pareil à ceux dont fit l'étude dans son théâtre Goldoni.
N'oublions pas aussi, à propos de Pietro Longhi, qu'il a représenté un rhinocéros, qui était un animal tout nouveau
comme Dali
en Europe à ce moment. Et ce rhinocéros a détrôné, je peux dire, le lion. Nous sommes dans cette période de la fin de la République. La République a perdu beaucoup de sa puissance et de sa prospérité. Les grands États maritimes, comme les Pays-Bas, comme la France, comme l'Angleterre, se sont attribués une grande partie du commerce avec les pays exotiques. Venise s'appauvrit. Et en même temps que l'appauvrissement vient, le sentiment national, la fierté vénitienne s'appauvrissent ici. Et ce fut certainement un des spectacles les plus tristes d'un des derniers carnavals de Venise, celui dans lequel on montrait dans une baraque sur la Piazza San Marco un lion, un pauvre lion pelé avec lequel jouaient des petits chiens. Et bien que les lions de Saint-Marc fût devenu ce pauvre lion de ménagerie ambulante montré dans la foire, cela nous explique la déchéance et la décadence de Venise. Et cette décadence de Venise, elle est en somme aussi dans cette décomposition des mœurs, dans le fait que tous les patriciens, ou beaucoup de patriciens de cette époque, allaient perdre leur argent dans le ridotto, ce ridotto qui a été peint d'une façon délicieuse par Guardi. Et par ce fait aussi que l'on raillait volontiers ce qui était la prospérité et ce qui était la gloire d'autrefois. La chaleur étant souvent excessive et insupportable à Venise, tout le monde, dès qu'il commençait à faire trop chaud, se sauvait sur la terre ferme, et c'était alors l'époque de la villeggiatura, c'est-à-dire des séjours dans les villas. La famille Tiepolo possédait une villa à Zaniego, sur la terre ferme, non loin de Mestre, et c'est dans cette villa que Gian Domenico, le fils de Giambattista Tiepolo, a exécuté toute cette série de fresques qui se trouvent aujourd'hui dans la Carrezza Nico, représentant des figures pittoresques, ou bien, par exemple ce personnage devant lequel nous sommes en ce moment, qui décrit à une foule de badauds ébahis les merveilles du Nouveau Monde. Nous ne savons pas ce que c'est que cette merveille du Nouveau Monde. Les spectateurs seuls les voient et nous ne voyons les spectateurs que de dos. Mais ce qui me paraît le plus frappant et le plus significatif du nouvel état de la conscience vénitienne vers la fin du XVIIIe siècle, ce sont les pulcinelles. Il y a dans les fresques de Gian Domenico Azzaniego une quantité de scènes de pulcinelles. Vous connaissez Pulcinella, c'est ce personnage falot, vêtu d'une longue souquenille blanche, comme un peu celle de notre Pierrot français, coiffé d'un haut bonnet en pain de sucre et porteur d'un nez énorme. Pulcinella est un personnage de carnaval, naturellement, et c'est un personnage comique, c'est un personnage railleur, c'est un bouffon. Mais ce n'est pas seulement un bouffon, c'est aussi un personnage triste. Pulcinella, dans cette blancheur grotesque, a en même temps quelque chose de funèbre et de macabre. Et ce n'est pas pour rien que Giambattista Tiepolo, dans sa fameuse série de gravures consacrée à la vie de Pulcinella, a gravé deux planches, l'une représentant la mort de Pulcinella et l'autre la résurrection de Pulcinella. Mais cette évocation du carnaval vénitien, pendant lequel tout le monde se promenait masqué, le masque était une garantie d'anonymat, même si l'on reconnaissait la personne qui la portait, on ne devait pas la reconnaître, et quand on se rencontrait, on se saluait en se disant « Bonjour, monsieur le masque » ou « Madame la masque »,« Signora maschera », de façon à ce que cet anonymat fût parfaitement conservé. Nous trouvons d'ailleurs dans les peintures de Longhi des personnages masqués portant ce masque blanc, étrange, un peu inquiétant, avec un énorme bec d'oiseau, le masque recouvert de cette espèce de petite pèlerine qui retombe à peu près jusqu'à la taille, que l'on a appelé la baouta. Et le personnage qui était revêtu de la baouta, coiffé du tricorne noir, le visage caché par cet extraordinaire masque blanc, était tout à fait indiscernable, évidemment, sauf pour les initiés. Et ce Longhi a animé, d'une façon charmante, naturellement, toutes ces scènes familières de la vie vénitienne. Mais si nous voulons les trouver encore vivantes aujourd'hui, ces scènes de mœurs, ces traditions vénitiennes, avec leurs aisements, avec leurs drôleries, avec leurs piquants, c'est dans les comédies de Goldoni, l'homme qui a écrit 100 comédies, que nous nous en aurons l'exemple le plus gracieux et le plus éloquent.
Vous arrivez maintenant à la comédie et vous venez de parler du crépuscule de Venise. Peut-être qu'avant de masquer ce crépuscule, ce pétillement de la comédie italienne, il faudrait montrer ce qu'il a de révélateur. En effet, ce crépuscule, c'est un peu celui de la culture occidentale. Je crois que pour les hommes qui ont vu cette culture élargie mais ébranlée par le romantisme au XIXe siècle et attaquée de toutes parts aujourd'hui, et surtout par les plus jeunes générations, ce départ des premiers craquements, des premiers signes précurseurs dans Venise prend pour nous un accent particulièrement émouvant. J'ai souvent proposé de lire, à la manière des psychanalystes, les images qui ont un sens par-delà celui que les artistes croient leur prêter. Et si nous regardons dans ce baroque, tout est le signe d'un renoncement aux structures et aux cadres qui avaient fait l'Occident. Ce retour à la nature, ces meubles qui redeviennent des troncs d'arbres à demi, avec des figures qui en sortent, que nous trouvons dans Broustolone, c'est aussi l'échappée hors de la civilisation. Ce vide que nous avons remarqué, cette fascination du vide où tout se dissipe et se disperse dans Tiepolo, c'est aussi une évasion hors des cadres. Et on pourrait dire encore que le masque, qui va prendre une importance si grande et que nous retrouverons plus tard dans les artistes contemporains et qui jouera un tel rôle dans Ensor, le masque, c'est encore la recherche de l'autre. L'homme n'est plus ce qu'il était, il n'est plus fidèle à lui-même, et tout d'un coup, il se crée une vie étrangère. Et enfin, nous voyons que ce qui se crée à ce moment, c'est le goût de la chinoiserie. Il y a ici un salon chinois. Or, l'Orient, les Vénitiens le connaissaient depuis toujours. Ils n'avaient jamais eu l'idée de l'exotisme, ex, sortir de soi-même. Et si au XVIIIe, justement, c'est un dépaysement qu'on cherche dans l'Orient et non plus un prolongement et une fusion, c'est parce que cette culture occidentale, un peu comme à Venise, la culture vénitienne, devient un poids très lourd, peut-être trop lourd, et que l'on cherche un renouvellement dans les aventures.
Oh, Galuppi, Baldassare, quelle triste découverte. Je peux à peine m'y tromper, cela serait me dire aveugle et sourd. Mais quoique je vous entende bien, combien mon esprit en est lourd. Vous voici, venant avec votre vieille musique. Voici tout le bien qu'elle apporte. Eh bien, on vivait ainsi à Venise au temps où les marchands étaient rois, là où se dresse Saint-Marc, où les doges épousaient la mer avec l'anneau. Oui, la mer coule dans la rue ici, et ce dos d'âne, comment l'appelez-vous? Le pont de Shylock, avec des maisons dessus, où ils tenaient leur carnaval. Je n'ai pas quitté l'Angleterre, mais je le vois cela, comme si j'y étais. Les jeunes gens prenaient-ils leur plaisir quand la mer est chaude en mai? Les bals et les masques commençait à minuit, flambait jusqu'à midi, dites-vous, et préparait de fraîches aventures pour le lendemain. Vit-on jamais telle dame, joue si ronde, lèvres si rouges, et sur le cou, le petit visage gai, comme Campanule en son pré, et la splendide ampleur des seins où l'homme aime à garder sa tête. Vous, grillon spectral, grinçant dans les cendres de la maison, poussière et cendre, morte et finie, venise à gaspiller ce que Venise avait gagné. L'âme, nul n'en doute, est immortelle. Là où l'on trouve trace d'âme. La vôtre, par exemple. Vous connaissez la physique, un peu de géologie. Les mathématiques sont votre passe-temps. Les âmes s'élèvent à leur degré. Un papillon peut avoir peur de ne plus être. Vous, vous ne mourrez pas, c'est impensable. Quant à Venise et à ces gens, nés pour fleurir et se flétrir, ils ont en leur temps donné leurs fruits sur terre. Gaieté et folie furent leurs vendanges. Mais que restait-il de l'âme, je vous le demande, quand on cessait de s'embrasser? Poussière et cendre. Ainsi grisonnez-vous, et je n'ai pas cœur à gronder. Femme chérie, femme morte, avec de tels cheveux aussi, qu'est-il advenu de tout cet or qui coulait sur leurs seins et les caressait? Ah, je me sens frileux. Je me fais vieux.
C'était Plaisirs et fêtes. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre des textes de Aloysius Bertrand, Jean-Jacques Rousseau, Pétrarque, Dubellay, Giuseppe Tassini, Lady Montagu, Thomas Mann, Goethe, Abel Bonnard, Rainer Maria Rilke, Montesquieu, Théophile Gautier, Henri de Régnier, Hippolyte Taine, Jean-Louis Vaudoyer, Robert Browning, dit par Paul Barré, Roger Brett, René Farabet, Robert Marcy, Maurice Nasil et Odette Aslan. Et illustré par des œuvres musicales de Baldassare Galuppi, Simone Mayr et des airs extraits des fêtes vénitiennes d'André Camprat.